Le handicap aujourd'hui. Une émission proposée par Radio Plus avec le soutien de la Fondation de France.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de votre émission Le Handicap aujourd'hui. Durant deux heures, de nombreux invités autour de notre micro vont aborder les thématiques du handicap. Un parcours quotidien fait d'obstacles, de difficultés, d'incompréhension, d'ignorance, de rejet aussi dans la vie de tous les jours, mais aussi un parcours fait de victoires, de joie, de moments de partage et de solidarité.
Un sentiment d'invisibilité gagne parfois les personnes en situation de handicap et leurs familles qui doivent se battre pour prouver qu'elles existent et qu'elles ont toute leur place dans notre société, que ce soit dans les milieux professionnels ou scolaires. Un combat au quotidien qui a aussi un coût, pas toujours compris par les partenaires publics ou les personnels de santé. Travail, éducation, financement, trajet, des obstacles au quotidien, telle est la thématique retenue pour ce nouveau numéro. Vous êtes bien évidemment invité à réagir et à nous faire part de vos témoignages durant cette émission. Vous pouvez le faire par le biais du mail à handicap@radioplus.fr.
Et avec nous autour de la table, nos invités. Tout d'abord, Dominique Charlet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de l'association Un Autre Regard à Billy-Berclau. Dany Gendruche, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présidente de l'association Azur et intervenante psycho-éducative. Vous êtes accompagnée aujourd'hui d'Émilie Glabien. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes membre de l'association Azur et maman de Noé, âgée de 6 ans, qui est atteint d'autisme.
Absolument.
Et il y a également avec nous Patrice Hasbrook. Bonjour.
Bonjour.
Vice-président de l'association Aidons Agathe et papa d'Agathe, atteinte d'une anomalie chromosomique. Nous allons démarrer cette émission en parlant tout d'abord des difficultés que les enfants en situation de handicap peuvent connaître en milieu scolaire. Un milieu difficile à appréhender, tant en termes d'accessibilité des locaux qu'au quotidien, entre le regard des autres élèves et le personnel éducatif pas toujours formé. Un sujet d'ailleurs que nous avions déjà abordé dans une précédente émission avec les difficultés des AESH, les assistants d'éducation pour les personnes en situation de handicap. Émilie Glabien, je me tourne donc vers vous. Vous êtes la maman de Noé, qui est âgée de 6 ans, en âge donc d'être scolarisée. Est-ce que Noé est scolarisé aujourd'hui ?
Absolument. Noé est un enfant chanceux, puisqu'il est porteur d'autisme et scolarisé en milieu ordinaire. Donc aujourd'hui, j'ai un enfant qui a fait sa rentrée au mois de septembre en CP. Une rentrée qui s'est très très bien passée, puisque j'ai aussi la chance d'avoir un petit garçon qui adore l'école. Donc pour lui, c'est un véritable plaisir. Et j'ai aussi eu la chance, comment dire, d'avoir une équipe éducative, une équipe associative qui nous a particulièrement bien entourés et qui a préparé Noé dans les meilleures conditions, en fait.
Alors, est-ce que c'est une situation facile tout de même pour lui sur le plan scolaire, au niveau de l'accueil, au niveau de l'encadrement ?
Non. C'est très difficile pour Noé, en fait, tout est très difficile pour lui. En fait, l'école, même s'il aime être avec ses pairs, s'amuser à l'école et apprendre, les difficultés au quotidien pour Noé, ça va être de maîtriser, en fait, tout ce qui va l'agresser. Quand je parle d'agression, c'est pas les autres, c'est le bruit qui va être généré. C'est ses difficultés de concentration quand ses petits camarades vont être déconcentrés, par exemple. Ou c'est les difficultés qu'il va avoir à comprendre un énoncé qui va être mal formulé pour lui. Il y a véritablement des besoins chez Noé qui sont spécifiques. Ils sont pas très compliqués, mais il faut que tout le monde puisse s'entendre, en fait, et bien comprendre la manière dont il faut s'adresser à lui, de manière à le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il puisse réussir.
Une nécessité d'adapter le discours, l'approche pédagogique.
Absolument.
Spécifiquement à son handicap.
Après, les adaptations, elles ne sont pas irréalisables. Quand je parle de reformuler un énoncé, un autiste a, par exemple, des difficultés pour comprendre des concepts qui sont complètement abstraits. Donc je me souviens d'une leçon de mathématiques qui avait été donnée à Noé, quelque chose de très très simple, où on lui apprend à poser les bases d'une addition. Et dans l'énoncé, on lui demandait de compter les jetons. Or, sur la page, il n'y avait pas de jetons, il y avait des cubes.
D'accord.
Et ça, pour Noé, c'est insupportable, parce que pour tout le monde, un jeton, c'est rond. Un cube, c'est un cube. Et en aucun cas, un cube n'est un jeton. Vous voyez, cette leçon-là, c'était terminé. Il a fallu qu'on l'arrange et que je prenne le temps, en fait, de lui expliquer qu'il y avait une erreur, de reprendre, en fait, l'énoncé, de reposer les choses autrement. Mais c'est beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Puis il faut s'adapter à Noé en permanence, en fait.
Alors justement, au niveau de l'école où il est scolarisé, est-ce qu'il dispose de moyens adaptés à la spécificité de son handicap ?
Oui, encore une fois, il a cette chance. Il a une AVS à temps plein. Et quand je dis une chance, c'est qu'il y a malheureusement beaucoup d'enfants en situation de handicap qui rentrent à l'école quand ils ont la chance de rentrer à l'école et sans AVS, alors qu'il y a un réel besoin d'accompagnement.
Oui, on verra dans quelques instants des chiffres à ce sujet. Alors, on parle effectivement aussi du personnel éducatif qui accompagne l'ensemble des élèves au quotidien, y compris Noé. Est-ce qu'ils ont les moyens, eux aussi, de mener à bien leur mission d'accueil d'enfants tels que Noé ?
Quand vous parlez de moyens, quel type de moyens vous...
En termes de formation, notamment, est-ce qu'ils sont sensibilisés à ces questions ?
Pas forcément. Je pense qu'il y a une partie du cursus où effectivement, quand vous êtes enseignant dans une classe ULIS, j'imagine que vous êtes un peu plus formé, voire beaucoup plus, hein, j'ose l'espérer, puisque vous accueillez des enfants qui sont en situation de handicap. Mmh. Dans une classe ordinaire, je pense que leur formation est minimaliste, en fait. Et que malheureusement, est-ce que l'enseignante a eu une formation dédiée à l'autisme avant d'accueillir Noé ou d'accueillir d'autres enfants qu'elle a pu avoir dans sa classe qui était porteur d'autisme? Très sincèrement, je ne pense pas.
Comment est-ce que vous l'expliqueriez, ça?
Alors, comment je me l'explique? Est-ce qu'on estime aujourd'hui, au niveau de l'éducation nationale, que c'est à l'enseignant d'aller chercher par curiosité, plus que par devoir d'être formé, en fait, des informations sur ces enfants-là? Est-ce qu'on attend que ce soit les associations qui sont sur le terrain qui puissent épauler l'enseignant? Est-ce qu'on attend du parent? Nous, c'est des questions, je vous avouerai qu'au fond, on ne s'est pas posé, en fait, ces questions-là. On s'est réunis avant la rentrée des classes de Noé. J'ai demandé le maximum d'informations pour pouvoir mettre mon enfant dans de bonnes conditions. Mmh. C'était une photo de l'enseignante, une photo de la classe, pour pouvoir lui montrer, voilà, qui allait l'accueillir. Et ça a grandement facilité les choses, puisqu'il était la classe ressemblait bien à la photo qu'on m'avait donnée. Noé avait pu se préparer à l'idée que c'était dans cette école-là, dans cette classe-là, et donc avec cette enseignante-là qu'il allait être. Et l'enseignante, elle a accepté de prendre Noé, puisque ce que je voulais surtout, c'est qu'on accueille Noé. Non pas par dépit, parce qu'on devait prendre un élève dans la classe, mais je voulais surtout qu'il y ait du bien-être des deux côtés, chez mon enfant et chez la personne en fait qui l'accueille dans sa classe. Je pense que ça aurait été un échec pour moi et pour l'enseignante. Je pouvais pas m'imaginer en fait que Noé soit dans une classe d'un enseignant qui se serait senti mal à l'aise en fait avec son handicap. Le bien-être, c'est vraiment des deux côtés. Pour que ça matche, faut que tout le monde se sente bien. Et lui, bien sûr, parce que c'est mon enfant, mais et aussi l'enseignante, parce que je peux aussi comprendre qu'on se sente mal à l'aise ou pas formé, justement, ou incompétent en face d'un enfant, comment dire, qui peut avoir des réactions très particulières, en fait.
Alors, depuis tout à l'heure, vous avez dit à plusieurs reprises que vous aviez de la chance pour que tout se passe bien auprès de Noé, dans son environnement scolaire. Est-ce qu'il a fallu pousser beaucoup de murs et beaucoup de portes pour que tout se passe bien pour Noé ?
Alors moi j'ai poussé qu'une porte, c'est celle de l'association de Dani, et elle a eu la charge d'enfoncer beaucoup de portes pour moi, donc elle m'a soulagée, vous voyez, de beaucoup de difficultés, notamment le dossier MDPH, du parcours en fait, parce que l'autisme c'est pas arrivé tout de suite, oui, il y a un diagnostic mais qui est quand même relativement récent. Donc avant ça, il y a le handicap, mais il n'y a pas de mots dessus. Donc on a des parents, moi personnellement avec mon époux, on est dans l'incompréhension totale. On aimait énormément notre enfant, mais on ne savait absolument pas comment l'aider. On ne savait pas comment le prendre en charge. On ne savait pas, on était complètement démunis. Et dans le parcours diagnostique, c'est difficile, mais j'attendais beaucoup plus en fait de la part du corps médical. Je m'estime pas avoir été aidée. Ça fait un an que Noé est pris en charge par l'association, que Dani intervient à la maison pour des séances d'ABA, puisqu'on pratique de la thérapie comportementale. Et s'il n'y avait pas eu ça, je pense que je n'aurais pas eu une rentrée aussi chanceuse et un gamin aussi bien dans ses bottes pour rentrer à l'école. Ça, c'est évident.
Le handicap aujourd'hui.
Des réactions par rapport à ce premier témoignage ?
Qui souhaite réagir par rapport à ça ? Des compléments peut-être aussi à nous apporter ou des situations qui se rapprochent dans ce que vous avez connu ? Dany, on parlait tout à l'heure des portes à enfoncer. Est-ce qu'il y en a beaucoup à enfoncer quand on est présidente d'une association qui a pour but justement de faciliter aussi l'inclusion des personnes en situation de handicap en milieu scolaire?
Alors oui, bien sûr, il y en a beaucoup, à commencer par la toute première qui est celle de la MDPH, hein, la Maison départementale des personnes handicapées. C'est un véritable parcours du combattant, ça, pour les parents. Et donc l'association, c'est vraiment la première étape avant, évidemment, celle où on a reçu les parents pour faire un point sur tous les besoins. Et donc voilà, en effet, la première, c'est bien celle-ci. Suivent ensuite les équipes de scolarité, les ESS, ce qu'on appelle ESS, donc où on intervient nous aussi en tant qu'association pour accompagner les parents. Pas seulement pour que la loi 2005 soit respectée, mais aussi pour aider les enseignants ou les AESH. Voilà. Puis au niveau de la MDPH, eh bien, c'est également accompagner les parents aux commissions, aux commissions MDPH, aux CDA, où ça nous permet, nous, de les aider à expliquer les besoins, les réels besoins de leurs enfants, pour que ensuite la MDPH puisse notifier ces différents besoins, que ce soit au niveau des prises en charge ou que ce soit au niveau scolaire aussi, question orientation, voilà.
Alors, d'après les derniers chiffres du ministère de l'Éducation nationale, fin septembre, 96% des 208 000 enfants qui devaient bénéficier d'un accompagnement dans leur scolarité étaient effectivement bien accompagnés, selon le ministère. C'est mieux que l'an dernier où ce taux était de 91%, mais ça laisse tout de même sur le carreau 8 320 élèves. Et encore, ce nombre n'est pas exhaustif. Est-ce que la mise en place cette année des pôles inclusifs d'accompagnement localisé expérimentés l'an dernier a amélioré les choses, selon vous ?
Alors, déjà, premièrement, moi, j'aimerais bien savoir de où viennent ces chiffres.
Le ministère.
Bon. Là, j'ai des collègues à côté qui réagissent.
C'est justement pour ça que je vous cite les chiffres.
Donc, bon, voilà, moi, c'est pas des chiffres que j'ai eus. Alors, peut-être que j'ai pas bien lu les.
Ou alors, peut-être que le peu de pourcentage, en fait, qui manque pour atteindre les 100% sont les mamans de ton association, en fait.
Non. Nous, ce qu'on a surtout, c'est 80% d'enfants non scolarisés.
Ouais, ben voilà, donc ça contraste effectivement avec le chiffre fourni par le ministère.
Voilà. Oui, comme vous dites.
Et donc, justement, est-ce que la mise en place de ces pôles inclusifs d'accompagnement localisé, ils ont été expérimentés l'an dernier. Normalement, il y en a un maintenant par département. Est-ce que ça a amélioré les choses ou pas en matière, justement, d'inclusion scolaire ?
Alors, à ce sujet-là, bon, d'abord, c'est tout récent, puisque pour moi, c'est mis en place septembre. Voilà. Donc on a quand même beaucoup de difficultés, nous, au niveau de ces fameux PIAL, puisque maintenant, c'est au PIAL qu'on s'adresse. Par exemple, pour parler d'une demande d'AESH où l'AVS n'est pas arrivé le jour de la rentrée scolaire, il n'est toujours pas là, puisque c'est toujours le cas, quand même. Il y a encore, donc, comme on disait tout à l'heure, des enfants sans AESH. Et la réponse que j'ai, moi, par rapport à ces PIAL, c'est on n'a pas les moyens humains. Bon. Alors ça, on en a parlé, nous, en réunion à l'inspection académique. Et bon, on nous dit que c'est en train de se mettre en place. Donc, bon. Maintenant, quand j'ai demandé, moi, à ce que ça aille plus vite au niveau des familles, pour l'instant, ce qui concerne les écoles, là, ici, dans le bassin minier, j'ai les AESH, mais je sais qu'il y en a encore beaucoup, beaucoup qui ne sont pas adressés à nous et qui sont sans AES.
Oui, alors parce qu'on précise hein, que ce sont les 208 000 enfants hein, qui étaient censés bénéficier d'un accompagnement selon le ministère. Hein, donc, c'est peut-être pas tout à fait la même chose par rapport au nombre d'enfants qui ont effectivement besoin d'être scolarisés et d'être inclus dans le circuit scolaire. Alors, on sait aujourd'hui que chaque AESH, hein, accompagnant des élèves en situation de handicap, peut-être amené à accompagner plusieurs élèves, parfois jusqu'à 6 élèves, qu'ils ont visiblement moins d'heures par élève, que certains d'entre eux, c'est ce qui remonte en tous les cas au niveau syndical, n'ont toujours pas de contrat signé ni de rémunération à l'heure d'aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi de sérieux progrès à faire, d'après vous ?
Évidemment. Mais bon, j'ai envie de dire que ça ne date pas d'hier. Bon, mais que c'est encore pire maintenant, depuis que ces AESH sont mutualisés, hein, c'est-à-dire donc comme vous venez de le dire, pour plusieurs enfants. Par contre, il faut quand même bien souligner une chose qui est importante, c'est que si vous demandez à la MDPH une AVS individuelle, vous devez pouvoir avoir cette AVS individuelle.
Oui, donc c'est important. Il ne faut pas croire,
voilà, c'est ça. Il ne faut absolument pas croire que c'est systématiquement comme ça. Alors, bien sûr, c'est sur le terrain en ce moment, c'est comme ça que ça se passe. Mais voilà, c'est quand même une possibilité.
Est-ce qu'il y a plus de réactivité quand même au niveau de la disponibilité d'AVS ou justement d'autres accompagnants?
Alors, vous venez de le dire, apparemment, hein, bon, ça encore, bon, on n'a pas vérifié, mais en effet, il y aurait ce mois de septembre, des AESH qui auraient eu, je crois, 3 euros, d'après ce qu'on m'a, on m'a rapporté, 3 euros
de rémunération.
D'acompte. Bon. Alors. Quand on entend également qu'elle démissionne au bout d'un ou deux mois, bon, on peut se poser des questions. Pourquoi elle démissionne ? Ben, voilà, quoi, elles ont aussi. Mais bon, à côté de tout ça, on a aussi l'importance des formations vis-à-vis de ce personnel hein, qui est démuni. Alors là aussi, en réunion, j'ai demandé moi à l'inspection que ces formations de 60 heures, bon, qui ne sont pas, encore une fois, sont bien des formations d'adaptation à l'emploi, hein, et non pas qualifiantes. Hein, c'est quand même. Et puis, c'est en général, c'est pas par handicap. Bon, après, vous allez me dire, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais bon. J'ai demandé à ce qu'elle soit faite avant, pas que moi, hein, toutes les personnes qui étaient là, qu'elle soit faite avant de démarrer.
Avant la prise en charge des élèves.
Oui. Ce qui serait logique. Mmh. Hein, parce que là, on a des formations qui démarrent en milieu d'année, j'ai même vu en fin d'année scolaire.
Donc, ce qui peut être un frein également pour les personnes qui souhaiteraient justement postuler à ce type d'emploi.
Oui, alors c'est pour ça que nous, avec d'autres associations, on se disait qu'il fallait quand même du personnel qualifié. Hein, ce sont des enfants qui ont besoin particulier. Mais bon, pour l'instant, on est encore avec les AESH et je crois qu'on y sera pour un bout de temps.
Julien.
Oui, donc effectivement des évolutions pour ce statut d'AESH pardon qui tarde à arriver. Alors l'accompagnement des personnes en situation de handicap, ce sont aussi, on l'a dit, les formations, les connaissances en matière thérapeutique. Et dans ce domaine, la France n'est pas forcément la mieux placée. Certains parents, notamment, doivent recourir à des thérapies réalisées depuis l'extérieur de notre pays. Et de manière générale, tous ces coûts ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale et les différents organismes sociaux. Notre solution revient à importer, si on peut dire ainsi, certaines méthodes. C'est le cas de Patrice Hasbrook de l'association Aidons Agathe qui fait donc appel à des kinésithérapeutes venus d'Allemagne pour permettre à Agathe de recevoir des actes adaptés à son état de santé. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler, Patrice, de l'handicap de Agathe ?
Bon, Agathe est une jeune fille de 17 ans. Elle est atteinte d'une maladie orpheline. Donc, c'est un cas unique en France puisque Aucune recherche de la médecine n'a permis de mettre un nom sur sa maladie. C'est une pathologie assez lourde, parce que Agathe a besoin en permanence de quelqu'un pour tous les gestes de la vie courante. Agathe ne parle pas, ne marche pas. Donc forcément, Agathe a besoin de quelqu'un chaque jour pour l'aider à vivre et à se déplacer.
Qu'est-ce qui vous a amené justement à faire appel à une thérapie qui vient de hors de France, donc des kinésithérapeutes allemands en l'occurrence?
Donc nous avons créé l'association en 2005. C'est ma femme, mon épouse, qui avait la force et l'envie de ne pas baisser les bras. Là, comme beaucoup d'associations, je pense, enfoncer des portes. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'associations comme la nôtre. Elle a fait beaucoup de recherches sur Internet et c'était une chance d'avoir effectivement le net pour nous ouvrir un peu le regard sur le monde et avoir des thérapies présentes, que ce soit en Espagne, aux États-Unis, en Allemagne, en Pologne. Malheureusement, toutes ces thérapies n'étaient pas accessibles en France parce qu'en France, on estimait que les soins médicaux apportés à nos enfants différents étaient suffisants. Malheureusement, on se rend compte au quotidien que la prise en charge ne l'est pas. Et c'est pour ça que nous avons créé cette association pour apporter à Agathe toutes les chances et des exercices supplémentaires pour l'apporter et pour essayer qu'elle soit un peu mieux dans son corps et essayer de la faire vivre la vie un peu comme nous tous.
Donc, pour reprendre ce que vous disiez, cette thérapie va plus loin que ce que propose un soin qu'on qualifiera de classique en France, c'est ça ?
Oui, très clairement. Alors, c'est des prises en charge intensives. Alors, c'est des mots qui peuvent effrayer. Au départ, en France, ça a effrayé. Il y avait la méthode d'Oman qui faisait peur à beaucoup de personnes en France. On avait l'impression de martyriser les enfants. Agathe, on est à bord, au début de l'association, on est allé à Toulouse, où il y avait beaucoup de familles de l'Europe, des dom-toms qui se réunissaient là-bas, avec des thérapeutes anglais, espagnols, qui avaient adapté ces méthodes d'Oman. Donc c'était le but de l'exercice, c'était de faire travailler l'enfant au quotidien pour éviter qu'il ne régresse. C'était de la kiné tout simplement intensive, ce qu'on n'avait pas en France, parce que en France, on n'a pas cette politique. Alors je sais que certains kinés, s'ils écoutent, ils risquent d'avoir les oreilles un peu hérissé, mais on n'a pas cette prise en charge intensive comme nous on peut l'attendre de nos enfants. C'est-à-dire que nous, on n'a pas envie de mettre un enfant dans un coin, dans une pièce. On a envie que cet enfant avance, cet enfant progresse. Et on a eu cette volonté justement de la faire avancer et de la faire évoluer. Malheureusement, c'était pas disponible et nous sommes effectivement dirigés vers les pays étrangers puisqu'on n'avait pas cette prise de conscience collective dans notre pays.
Alors du coup, concrètement, pourquoi est-ce que les kinésithérapeutes français aujourd'hui ne sont pas en mesure, selon vous, de réaliser les soins dont aurait besoin Agathe ?
Ben, je pense que d'abord, il y a une totale, le fait d'occulter le handicap. Je pense que dans certains cursus scolaires, que ce soit médecin, au bout de ces métiers, c'est le métier d'à côté, que ce soit kiné, orthophoniste, on n'a pas toujours cette prise, la prise du handicap qui est enseignée. Et certains kinés, très clairement, aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas se cacher et se voiler la face, ont plus une démarche commerciale où on n'hésite pas à recevoir plusieurs patients sur une même séance, sauf que nos enfants ont besoin de, je ne veux pas dire d'exclusivité, mais presque, c'est-à-dire que ça serait une séance d'une heure intensive pour les faire avancer. Mais aujourd'hui, les kinés ne sont pas en mesure et je pense qu'ils n'ont pas le temps de le faire.
Une logique donc qui privilégierait la rentabilité au détriment d'un suivi individualisé du patient ?
Mais très clairement, je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, le handicap en France, c'est aussi une logique financière, que ce soit dans les centres. Je ne vais pas citer le centre d'Agathe, mais certains centres veulent accueillir des enfants comme Agathe parce que c'est une rentabilité, c'est 2500 euros par mois. 2500 euros par mois, c'est la thérapie, ce qui nous coûte, nous, quand on reçoit les kinés en Allemagne. Sauf que le travail qui est fait avec ces kinés à la maison est tout autre de ce qui peut être fait dans le centre d'Agathe où on a tendance à mettre ses enfants ou à leur montrer des dessins, leur faire écouter de la musique. Alors que Agathe a besoin de ça, on est tous conscients, mais elle a besoin aussi de travailler et éviter de régresser dans la vie de tous les jours.
Est-ce qu'il y a un manque de kinésithérapeutes aussi, selon vous, qui pourrait expliquer en partie ?
Je ne pense pas que ce soit un manque de kinés, je pense que ce soit une ouverture d'esprit qu'on n'a pas dans notre pays. Alors, nous, on a la chance dans notre village d'avoir un kiné qui donne son temps, et je pense que c'est pas facile aujourd'hui. Mais je pense que c'est une philosophie qu'on n'a pas, nous, en France, dans la prise en charge du handicap. C'est-à-dire que ce sont des personnes à part entière. Et je pense que même vos auditeurs, peut-être un jour, ils ne seront pas concernés par le handicap, et un jour seront concernés, et ils vont avoir cette ouverture d'esprit qu'ils n'ont pas. Même peut-être nous, parents, qu'on n'avait pas avec nos enfants avant de les avoir, on n'avait pas été retournés vers le handicap. Et aujourd'hui, on se rend compte que finalement, on a tous à gagner à vivre ensemble et à avancer, à faire travailler les enfants et à tous les intégrer. Et voilà, c'est un combat quotidien. Et qu'effectivement, que les kinés, il n'y a pas que les kinés, hein, les médecins, vous allez encore dans des cabinets médicaux, aujourd'hui, vous n'avez pas d'accessibilité, ou vous avez des gens qui regardent les enfants comme... qui ne regardent, ça va choquer certainement, mais pas forcément comme un être humain, mais pas comme un objet, mais c'est difficile de faire prendre conscience. Nous, on le voit personnellement avec Agathe, faire conscience, comme Agathe ne parle pas, de dire oui, elle comprend. Donc aujourd'hui, on a cette chance de pouvoir mettre des pictogrammes pour la faire s'exprimer. Mais beaucoup de gens, des médecins, nous sont encore à se demander si Agathe comprend ce qu'on dit, alors que très clairement, elle comprend ce qu'on veut lui dire, quoi.
Est-ce que vous pensez qu'une harmonisation européenne au niveau des thérapies par le haut, c'est possible, puisque vous faites venir des thérapeutes d'Allemagne, etc. Pourquoi ne pas prendre exemple sur eux? Pourquoi ne pas faire en sorte que les législations des différents pays européens puissent s'harmoniser à ce niveau-là?
C'est comme on disait tout à l'heure, c'est une logique financière. C'est-à-dire que la sécurité sociale en France a pris le parti de nos familles. C'est-à-dire que nous, on va à l'étranger, on a créé nos associations. Donc c'est essentiellement du don, des aides privées, des aides d'autres associations. Et je pense que la Sécu et derrière la Sécu l'État ont pris le parti que ces familles se financent, s'autofinancent. C'est-à-dire qu'on a des familles dans le sud-ouest, de Toulouse au Bordeaux, qui suivent des thérapies en Espagne. Et la Sécu commence à rembourser ces thérapies alternatives en Espagne. Alors ce qu'on nous dit, nous, c'est pourquoi pas former des professionnels en France et effectivement réduire le coût pour les familles. Parce qu'aujourd'hui, nous, on a cette chance d'avoir l'association parce qu'on a été bien entouré. Mais toutes les personnes concernées n'ont pas la force de le faire et se retrouvent livrées à elles-mêmes. Et le coût d'une thérapie, nous, là, dans deux semaines, on a des kinés, les kinésithérapeutes qui viennent d'Allemagne. Il y a d'autres enfants du secteur qui viennent suivre ces thérapies. Sur une semaine de thérapie, c'est plus de 2000 euros. Donc toutes les familles ne peuvent pas le faire. Nous, on a cette chance de pouvoir le faire. On aimerait bien que ça soit harmonisé, mais je pense qu'on en est très loin, puisqu'on se repose très clairement sur nous.
Alors, à quelle fréquence sont prodigués les soins pour Agathe par cette équipe de kinésithérapeutes allemands?
Alors, dans la mesure des aides qu'on peut recevoir, on peut se permettre de le faire 3 fois à l'année, ce qui est rien, parce que les kinés voudraient prendre Agathe intensivement sur une semaine, ou voire 2 semaines. Bon, après, on prend aussi le temps qu'Agathe a besoin de se reposer, parce que c'est une enfant qui très vite se fatigue. On y va là, ils viennent à la maison dans 2 semaines. Au mois d'avril, on peut y retourner, et souvent au mois de juillet. Donc, on alterne avec une famille. On va essayer d'alterner, qu'on puisse aller en Allemagne ou une famille du secteur qui reçoit ses kinés, tout en sachant que quand les kinés viennent à la maison, il faut les héberger, il faut les nourrir. Les Allemands mangent beaucoup. Et puis après, il y a les soins à payer. Une heure de kiné avec les thérapeutes allemands, c'est 200 euros la séance. Donc voilà, ça reste un coût relativement important et qu'il faut pouvoir assumer.
Le handicap aujourd'hui.
Vous êtes toujours sur Radio Plus dans l'émission Le Handicap aujourd'hui, en compagnie de nos différents invités, Dominique Charlet, président de l'association Un Autre Regard, Billy Berclos, Dany Gendruch, intervenante psycho-scolaire au sein de l'association Azur de Fouquières-les-Lances.
C'est pas de Fouquières-les-Lances, hein, c'est ça. Rappelez-nous la ville.
Méricourt,
voilà. Autant pour nous.
Autant pour nous, oui. Émilie Glabien, donc membre de cette association Azur et maman d'un petit garçon autiste de 6 ans. Patrice Hasbrook, vice-président de l'association Agathe et papa d'Agathe, atteinte d'une anomalie chromosomique. Et normalement, Jacques Kleinpeter, président de l'association Solidonde, qui ne devrait plus tarder. En tous les cas, on l'espère qu'il va arriver d'ici quelques instants. Alors, je me tourne après vers Dany Gendruch. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les objectifs de votre association Azur?
Oui, alors bon, comme je disais tout à l'heure, les objectifs, c'est d'abord l'accueil des familles, qui est quand même relativement important, parce que énormément de familles sont encore isolées. Donc ensuite, on voit avec les familles les besoins et on s'occupe des dossiers MDPH. Puis, suite au retour des notifications de ces dossiers MDPH, donc on accompagne les familles aux commissions quand on a eu besoin de faire des recours parce qu'on n'a pas été entendu dans les besoins en fait hein, pour ces enfants. L'association accompagne également les familles aux équipes de scolarité, équipes de suivi de scolarité, les ESS. Et puis, au niveau de l'association, donc, nous avons deux psychologues ABA et puis des éducateurs et des intervenants psychoéducatifs, tous formés à l'approche ABA.
Alors justement, est-ce que vous pouvez... Oui.
Oui, alors l'association fait également des sensibilisations hein, quand on nous le demande. Donc au niveau des écoles, c'est important quand même de sensibiliser. Donc pour nous, pour les TSA, voilà, c'est ce que je voulais rajouter au niveau de l'association.
Très bien. Alors vous parlez justement de la thérapie ABA. De quoi s'agit-il exactement ?
Alors, donc c'est pas une méthode. Hein. On entend souvent dire la méthode ABA, c'est pas une méthode. L'ABA, c'est une approche ou une science, hein, approche ou science comportementale. En français, donc c'est l'analyse comportementale appliquée qui vise donc à comprendre et à modifier des comportements. Je vous dis, on va simplifier, hein, comme oui. ça va être compris. Et donc modifier des comportements qui revêtent une importance sociale.
Alors, cette thérapie est la seule reconnue, a priori, par la Haute Autorité de Santé ?
Non. Alors, il y a bien sûr d'autres sciences comportementales recommandées hein, par la Haute Autorité de Santé. Vous faites bien de le dire, parce que ça, c'est quand même très important. C'est aussi dans le quatrième plan autisme. Mais il y en a d'autres. Non, il n'y a pas que l'ABA. Vous avez le Teach, Denver, pour ne citer que cela. Mais le PECS, hein, bien sûr, puisqu'on parlait tout à l'heure de PICTO, il y en a quand même plusieurs. Et puis, il y en a aussi qui ne sont pas recommandés par la Haute Autorité de Santé.
Quel est l'intérêt de cette thérapie ?
Alors, comme je vous disais, en fait, on travaille, moi, j'aime pas trop le mot, on accompagne l'enfant, on va dire... pour modifier donc des comportements et on utilise pour ça ce qu'on appelle nous des renforçateurs. Hein. Donc on renforce le bon comportement pour essayer d'éteindre le mauvais. Le comportement inadapté, on va dire.
Donc ça c'est l'intérêt principal du coup de cette thérapie.
Bien sûr.
D'accord.
Il y en a d'autres, hein, mais c'est vraiment la...
Alors, on a eu un chiffre, vous nous corrigerez hein, au besoin, 25 heures de thérapie ABA représenteraient environ 2000 euros par mois en termes de coûts. Est-ce que déjà ce chiffre a une signification ? Et autre question, pourquoi n'y a-t-il pas, selon vous, de prise en charge de cette thérapie ? Malgré le fait qu'elle soit reconnue par la Haute Autorité de Santé, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe.
Alors, je vais commencer par vous répondre sur la deuxième. Hein. Pourquoi ? Je pense que c'est une question qu'il faut vraiment poser au gouvernement, ça, parce que nous aussi, on se demande pourquoi. Elle est recommandée par la Haute Autorité de Santé.
Vous avez eu des
donc,
réponses.
Pourquoi ? Moi, je ne peux pas vous répondre, bien sûr. J'ai même encore une pétition là qui circule là-dessus. Bon, ça n'a pas beaucoup d'effet, hein, mais voilà. On a alerté, je ne sais pas combien de fois, Madame Buzyn quand elle est venue à Lens, Madame Cluzel. Enfin bon, on ne fait que ça. C'est notre quotidien, ça.
Alors, pas de réponse pour l'instant.
Pourquoi niveau... Posez-leur la question et puis si vous avez une réponse, à ce moment-là, vous me la donnez, comme ça...
En fait, voyez-nous, en tant que parents, on a aussi cette question de savoir pourquoi un enfant, là je vais parler de mon cas porteur d'autisme, qui est confié à un hôpital de jour. L'hôpital de jour se voit rétribuer une somme qui équivaut à peu près à 800 euros par jour pour accueillir un enfant en situation de handicap. Et pourquoi moi, en tant que parent, qui met plein de bonne volonté, voyez-vous, à porter haut mon enfant. Pour un mois de prise en charge, on ne me donne même pas une journée qui est allouée, comment dire, pour un hôpital. Pourquoi ?
Donc ça, autre paradoxe que vous soulignez.
Oui, tout à fait, parce que je pense que l'argent, quand on parle d'autant de millions dans le premier, deuxième, troisième, enfin, on peut aller jusqu'au 11e plan autisme sans que ce soit réglé, hein, clairement. L'argent, il est là. On est quand même dans un pays riche. Le souci, c'est la redistribution de l'argent. C'est pourquoi on n'accorderait pas à un parent, que ce soit moi, qui ait une réelle volonté, encore une fois, de soigner et d'apporter du soin à mon enfant, va me répondre « Mais madame, votre enfant, il est en ALD. » Ben, pardonnez-moi, mais moi, il a un ALD qui lui sert strictement à rien. À rien.
ALD, on rappelle pour les auditeurs.
Affection longue durée. Donc j'ai un document qui aujourd'hui me dit, avec toute une série en fait de professionnels, qu'ils soient psychomotriciens, parce que c'est écrit noir sur blanc, Noé a le droit d'être prise en charge à 100% pour, par exemple, l'intervention d'un psychomotricien. Or aujourd'hui, ça pourrait être le cas si je confiais Noé à un CMP. Le psychomotricien qui intervient à mon domicile en libéral, celui-ci, non, je dois le payer. L'ergothérapeute, c'est la même chose. Pourquoi ?
Alors, donc, pour répondre, moi, à cette question-là, au niveau donc des prises en charge que l'État ne prend pas en charge, les dossiers MDPH, on va dans ce sens-là, nous, pour avoir... Pour que les parents aient, alors au niveau par exemple de l'AEH, hein, allocation enfant éducation handicapée, en fournissant les devis des différents professionnels, psychologues, intervenants, psychomotriciens, ergothérapeutes, voilà tout ce qui n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Malgré cette ALD, là, mais normalement, ça devrait être pris. Hein. Il y a eu des jurisprudences à ce niveau-là. Mais bon, voilà, on en est toujours là, malgré ça. Donc, on fait en sorte que, quand on va aux commissions MDPH, eh bien, les familles puissent avoir le complément nécessaire par rapport au devis de chaque professionnel, soit en AEH, soit en PCH, prestation compensation handicap. C'est une façon de pouvoir aider les familles. Mais c'est pas, encore une fois, c'est pas logique.
Oui, parce que le montant de l'allocation qui est allouée pour ces enfants est nettement inférieur aux besoins et aux coûts réels que représente, comment dire, le soin. On est réellement, comment dire, on peut parler de défaut de soins. L'État ne prend pas du tout ses responsabilités vis-à-vis de ses enfants.
Mais alors, quand vous soulignez ces problèmes en commission MDPH, qu'est-ce qu'on vous répond ?
Ben, on nous dit que, encore une fois, il se base sur les devis, de toute façon. Hein, il se base sur les devis. Et puis, si quelqu'un, le MDPH, a décidé que, ben non, ça, voilà, il n'a pas spécialement, voilà, ou le diagnostic, là, c'est aussi un gros problème. Où le diagnostic n'a pas été fait par le CRA, par exemple, ben non, ça ne va pas, parce que c'est pas fait par... alors que dans le quatrième plan autisme, et si vous interrogez la plateforme autisme info autisme, on vous indique bien que les diagnostics doivent être faits par des médecins.
Oui, un médecin généraliste donc, doit pouvoir être en mesure de diagnostiquer un enfant autiste.
Alors, bien sûr, il faut quand même avec tous les bilans. Hein, mais sinon, avec les psychiatres, avec les pédopsychiatres, voilà. Mais ça va mieux, ça va un petit peu mieux au niveau de la MDPH concernant ça.
Dominique Charlet, il y a des améliorations au niveau de la MDPH, selon vous, justement, dans la prise en charge, parce que ça fait aussi partie de toute cette problématique qu'on évoquait en début d'émission, à savoir la considération aussi qu'on peut avoir en tant que personne en situation de handicap, le sentiment de ne pas être qu'un dossier et un chiffre. Ça s'améliore aujourd'hui ?
Moi, à titre personnel, au niveau de la MDPH, j'évite un maximum de passer par eux. Parce que souvent, on est face à un mur. Je suis passé une fois en commission. C'était un espèce de tribunal où il y a 12 personnes, un pseudo-médecin, on va dire ça, qui a décidé avant, et qui dit c'est comme ça, comme ça. Et nous, on est là, on n'a rien à dire. Enfin, on ne peut même pas répondre, on a l'impression d'être un accusé dans un tribunal. On se fait, moi, personnellement, je l'ai vécu comme ça, ça a été une agression totale, ça a duré 45 minutes. C'était pour l'aménagement de la maison. Quand on est à roulette, à un moment, il faut bien pouvoir...
Voilà, de la douche, etc.
Voilà. Mais elle avait décidé certaines choses qui n'étaient pas compatibles avec la maison, mais elle avait décidé. Contre l'avis de certains, c'est pareil, elle avait remis en question les médecins, enfin, les diagnostics des médecins. Enfin, apparemment, elle avait une boule de cristal et elle avait su voir des choses que personne ne voyait. Ça a pris 3 ans et demi quand même pour aménager la maison. Donc oui, il y a encore beaucoup de choses à améliorer au niveau de la MDPH, mais il y a quand même des gens intelligents au niveau de la MDPH, mais oui, il y a des choses à changer quand j'entends... j'ai l'impression que c'est fermé quand on va là-bas, quand on parle d'ouvrir les portes, il faut déjà commencer par celle-là. C'est quand même normalement l'endroit où on devrait sécuriser, entre guillemets, les personnes en situation de handicap, les familles. On parlait, je sais plus ton prénom.
Émilie.
Émilie, on parle pas assez souvent aussi des aidants.
Oui, tout à fait.
Il y a les aidants aussi. Quand on fait une demande, par exemple, bon, moi j'ai certaines, je sais faire beaucoup de choses par moi-même, mais il y a certaines choses où c'est mon épouse qui est obligée, elle travaille quand même à 100%. Quand on demande par exemple qu'elle soit mise, je sais plus comment ils appellent ça, la MDPH. Considérée comme une aide au niveau de la, au niveau des, la retraite.
Aidant familial.
Ben non, c'est refusé, il n'y a pas de. Enfin, on n'a pas de courrier, il n'y a pas d'explicatif, et on vous balance ça comme ça. Donc oui, je pense qu'après, il faut qu'on aille de l'avant, il faut qu'on puisse dialoguer. C'est vraiment mettre un dialogue et avancer en se disant vraiment cibler les besoins. Mais aussi, écoutez, ces personnes-là n'écoutent pas, ne sont vraiment sur le terrain. On est des numéros de dossier, c'est ce que vous disiez. Hein. C'est ce que j'avais répondu à ce médecin-là, je ne suis pas un numéro de dossier, je suis une personne. À un moment, il y a le handicap, mais il y a l'humain. Le handicap, par moment, il faut essayer de, entre guillemets, essayer de l'oublier, recentrer sur l'humain, savoir essayer de discuter, de rentrer juste un peu en discussion, s'intéresser. Quoi.
Plus d'échanges et plus d'argumentation aideraient aussi à mieux comprendre certaines décisions, c'est ça?
Oui, tout à fait. Tout à fait, oui. Et ça passe aussi par... On va revenir aussi à l'école. Ça passe aussi par l'école, c'est les enfants qui sont les premiers à pouvoir ouvrir les yeux et ouvrir aussi les portes aux adultes, de montrer, un handicap, eux, ça leur prend 5 minutes pour comprendre les tenants aboutissants, et hop, pour eux, c'est ce qu'on va parler de normalité. Ça rentre dans leurs normes, c'est ça qu'il faut aussi changer, faire évoluer ces prises de conscience pour les thérapies, pour toutes ces choses-là. Il faut vraiment s'ouvrir. Il y a des choses bien qui se font ailleurs, dans les médicaments, dans plein de choses, mais c'est vrai qu'à un moment, je pense qu'il va falloir... Les gens en prennent conscience et ouvrent vraiment les yeux.
La réaction, Patrice Hasbrouck, peut-être ?
Non, je pense que Dominique a raison. Il y a une prise collective, une ouverture d'esprit qu'on n'a pas forcément. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Il ne faut pas attendre d'être confronté à la maladie, au handicap pour s'ouvrir ses chakras. Et malheureusement, c'est le problème, je pense, beaucoup de pays. Mais comme Dominique dit, je pense que c'est d'abord par l'école et par les enfants. Agathe a eu cette chance, malgré ses difficultés, à faire quelques mois en école. Et il n'était pas rare que dans notre village, des enfants viennent la saluer, lui dire bonjour. Donc c'est bien la preuve que c'est nous, adultes, qui nous mettons des œillères. Et les enfants, pour eux, c'est toujours plus simple. Et il suffit de pas grand-chose pour que le monde soit, pour nous aidants ou pour les personnes concernées par la situation du handicap, soit plus facile. Et c'est une prise de conscience collective qu'il faudrait avoir. Ouais.
On vit peut-être dans un pays où on confond encore, comment dire, ouverture d'esprit et fracture du crâne, pense.
Alors, je reviens à présent vers vous, Dany Gendruch, au niveau des différentes méthodes prises en charge, ou non d'ailleurs. On parlait de la thérapie ABA tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres méthodes qui sont prises en charge, cette fois, complètement par la sécurité sociale, ou non ?
Alors, pas à ma connaissance, non. Encore une fois, en tout cas pour l'ABA, c'est pas une méthode, c'est une... veut dire approche ou sciences comportementales. En ce qui concerne le Teach Denver, à ma connaissance, c'est pas non plus pris en charge. Mais vous savez, l'ergothérapie n'est pas non plus pris en charge. La psychomotricité n'est pas non plus pris en charge. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui
beaucoup
tournent.
Beaucoup de déficits.
Hein. Ah bah bien
oui,
sûr. Mais
le psychologue n'est pas pris en charge, le psychiatre, oui. Ouais. Lui, malheureusement, ouais, voyez, ouais. En tant que
l'aspect
parent d'enfant autiste.
L'aspect médicamenteux, etc. Oui, voilà.
Oh bah c'est même l'approche. Je crois qu'on a quand même un historique entre les. Ouais. Je suis une maman d'enfant autiste, vous imaginez bien. Derrière moi et derrière autant de mamans qui ont eu des enfants qui ont eu cette pathologie, on a encore aujourd'hui des préjugés dont on a quand même beaucoup de mal à se séparer, et ils perdurent encore dans l'esprit de certains que la mère est fautive, moi je me souviens, mais dans tout le parcours, on m'a tellement questionnée sur tout ce qui s'était passé pendant ma grossesse. Sans jamais me dire effectivement que j'étais fautive, mais enfin il n'y avait plus à le dire, on ne me parlait que de ça. Donc que mon mari à un moment a dû aller demander à notre médecin traitant si effectivement il s'était probablement produit quelque chose. Pourtant on n'est pas idiots tous les deux, mais ça nous a mis un doute. Enfin moi il y a eu un moment, je me suis même remis en cause sur des sujets où enfin il n'y a pas à se remettre en cause. On est autiste, on meurt autiste, c'est neurodéveloppemental. C'est presque génétique, je vais le dire du bout des lèvres, parce qu'il y a beaucoup de. Dans 30 ans, on pourra peut-être affirmer que ça l'est. Aujourd'hui, on n'en est pas capable, mais on continue à chercher dans ce sens-là. Et aujourd'hui, en face de professionnels de santé, vous avez encore ce lourd passif qu'on traîne avec nous, et le regard qui est posé sur les parents, il est plus accusateur, comment dire, qu'aidant. Alors que quand vous consultez, comment dire, un spécialiste pour votre enfant, vous vous attendez véritablement à être aidé, à être pris en charge, à être épaulé, à avoir des réponses à vos interrogations. Enfin, moi, je peux remercier le CMP, mais de ne m'avoir surtout jamais appelé pour Noël. Vraiment. Je les remercie du fond du cœur.
Oui.
Je voulais juste rajouter en ce qui concerne les prises en charge donc comportementales, donc pour la BA, c'est que c'est non seulement la prise en charge de l'intervenant psychoéducatif qui doit être pris en charge par la MDPH, mais aussi celle du psychologue ABA, puisque c'est la psychologue ABA qui donne les objectifs d'accompagnement. À l'éducateur. Voilà, donc c'est vraiment complémentaire. C'est la psychologue et l'intervenant psychoéducatif, les deux. Donc c'est deux prises en charge différentes.
Après, ABA, comme on en parle comme ça, ça a l'air très très barbare. Au fond, n'importe quel parent qui est dans le positivisme avec son enfant, qui lui dit que ce qu'il fait est formidable, qui récompense un enfant qui a bien travaillé comme tout parent, comment dire, récompenserait son enfant après un bon bulletin, il est dans l'ABA. En fait, sans le savoir. Aujourd'hui, moi, je peux juger des progrès en un an qui ont été faits avec Noé. J'ai beaucoup moins de troubles du comportement parce qu'on a réussi, comment dire, à apprendre à Noé à se comporter. Enfin, je vais dire entre guillemets, je vais dire normalement. Normalement. Non pas que son comportement était anormal, mais inadapté en société, on va dire. Mmh. Voilà. Ça a permis à Noé, comment dire, à gérer ses colères, à comprendre les sentiments des autres. L'autisme, les enfants ne comprennent pas, en fait, et ne décodent pas sur le visage. On doit leur apprendre la totalité des émotions, que ce soit la colère, que ce soit... Si tu m'envoies des messages, je ne vais pas comprendre.
Dani, qui justement souffle.
Voilà, elle essaye du moins, parce que je n'arrive pas à lire ce qu'elle... donc dis-le, Dani.
Non, je pensais qu'elle allait nous parler, parce que ça a été vis-à-vis de Noé, les peurs qu'on n'a plus du tout eues le temps de cet été. Je pensais qu'elle allait parler de ça, c'est pour ça que...
Les peurs de cet été, c'est-à-dire
le parc avion, par exemple, voilà, où on n'avait plus ces peurs du tout pour la rentrée des classes, c'était important.
Ouais, nous, on était des parents qui promenions notre enfant au parc. On n'avait jamais eu le plaisir de voir notre enfant ni s'amuser, et lui se contentait de s'amuser, de regarder les autres s'amuser. Enfin, moi, je rêvais de voir mon enfant assis sur une balançoire ou de monter sur un toboggan. C'était pas du tout le cas. Noé, il préférait gratouiller un caillou dans son coin, regarder les autres enfants s'amuser et rire de les voir. Mais enfin, on était loin d'être d'un participatif et dans l'action encore moins. C'est-à-dire que monter trois marches d'un toboggan, c'était impossible. Et Dani, donc, prend en charge Noé, comment dire, cet été. Donc, elle me dit, on va pas faire des séances à la maison alors qu'il fait super beau dehors. Elle dit, tu me fais un sac, on va au parc. Et donc là, il y a ces fameux toboggans gonflables et autres. Je dis, où est-ce qu'elle va? J'ai la confiance en elle. Hein. Je dis, parce que moi, j'ai jamais réussi à obtenir, comment dire, ne serait-ce qu'ils supportent le bruit, les enfants, le reste. Et en quelques séances, notamment grâce à la BA, parce qu'elle maîtrise ça très très bien, et ben Noé, il a fait du toboggan, il s'est amusé avec les autres, il a parlé avec des autres enfants. Voilà, je vous dis pas, moi en tant que maman, quand on me raconte ça, c'est elle le filme, je le vois. Enfin, je sais ce que je crois connaître la sensation qu'éprouve un champion aux Jeux Olympiques. En fait, c'était une vraie victoire. Quoi. Le goût de la fierté, de la victoire. On sait vraiment ce que c'est. Edouard Noé heureux. Enfin, ça n'a vraiment mais aucun prix. Et donc aujourd'hui, quand on va au parc, parce qu'évidemment on retourne régulièrement dans ce parc-là, c'est un plaisir dont on ne se prive pas, et lui non plus, ben ça c'est formidable. Et sans la thérapie comportementale, je crois qu'il n'aurait jamais eu suffisamment confiance en lui pour pouvoir réussir ça, en fait. Voilà.
Alors, on va se retrouver en seconde partie d'émission à partir de 15h. On continuera de parler un tout petit peu de la thérapie ABA et on vous posera surtout la question du coup, comment vous faites pour faire face au coût justement qu'engendre cette thérapie. Donc ça, vous nous l'expliquerez. Et puis, on abordera
la question
sujets.
Aussi, notamment de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap et puis aussi la difficulté qu'on peut rencontrer dans la vie quotidienne, dans les trajets notamment. Et puisque, on l'a dit en début d'émission, le handicap, ça n'est pas que du négatif, ce sont aussi des victoires, comme on vient d'en avoir un exemple là en compagnie d'Émilie Glabien. Eh bien, on s'intéressera aux projets positifs et aux petites victoires autour du handicap. Restez bien avec nous dans l'émission Le Handicap aujourd'hui sur Radio Plus. On se retrouve tout à l'heure à partir de 15h.
Éphémère et légère, joue.